France Inter. Secret d'info, Mathieu Aron.
Si 75% de notre électricité n'était pas nucléaire, le prix moyen du kilowattheure n'aurait pas déjà baissé de 19% en 10 ans.
Aujourd'hui, l'électricité nucléaire assure notre avenir énergétique. EDF, nous vous devons plus que la lumière.
L'électricité qui baisse grâce au nucléaire, c'est ce que nous vantait cette publicité il y a près de 20 ans. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé, puisque EDF va devoir augmenter ses tarifs de 30 à 50%. Et l'une des raisons de cette hausse, en plus du coût des EPR et du rachat partiel d'Areva, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas, c'est le coût faramineux du démantèlement des centrales nucléaires. Bonsoir Jacques Monin.
Bonsoir Mathieu.
On est aujourd'hui au tout début d'un chantier qui risque de nous coûter très cher. Hein.
Oui, alors ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que lorsqu'on a construit les premières centrales dans les années 50-60, on ne s'est pas posé la question de savoir comment les démanteler, ni de combien ça allait coûter. On a donc démarré assez récemment, et pour tout vous dire, on a des très mauvaises surprises sur les coûts, parce qu'on ne sait pas vraiment comment faire. On apprend peu à peu, en faisant d'ailleurs parfois de sérieuses boulettes. Alors pour vous faire comprendre ça, je vous propose de nous rendre, grâce à cette archive de l'INA, à Brennilis, sur le site d'une des plus vieilles centrales françaises qui se trouve en Bretagne, dans le Finistère.
Un petit bourg au cœur même de la région désolée des Monts d'Arrée. Une herbe rase, quelques touffes d'ajoncs recouvrent les pentes dénudées qui descendent vers le lac. Et ici même, à Brennilis, longtemps figée dans son passé, se préfigure l'avenir. La construction d'EL4, la centrale nucléaire des Monts d'Arrée, s'achève.
À cette époque, la centrale de Brennilis s'apprête donc à produire de l'électricité, ce qu'elle fera jusqu'en 1985.
Oui, elle fonctionnera pendant 19 ans, et puis on décide qu'elle est assez vieille, on la met à l'arrêt, on enlève le combustible, c'est ce qu'on fait en premier lorsqu'on arrête une centrale, et commence alors une première phase de démantèlement assez hallucinante. C'est un peu les pieds nickelés à Brennilis, si l'on en croit Michel Marzin, un ex-technicien de la centrale, qui a assisté aux opérations de démantèlement.
Au début, c'était carrément les ferrailleurs qui venaient acheter des moteurs électriques, des armoires, des choses comme ça, comme si c'était le démantèlement d'une laiterie ou d'un lycée ou peu importe, d'un vieux bâtiment, quoi. Bon, c'était pas du matériel contaminé, hein, c'était dans les auxiliaires. Mais alors, on sentait pas le poids de la centrale nucléaire à côté.
C'est quand même assez stupéfiant, hein, ce témoignage, mais des négligences, il va y en avoir d'autres.
Oui, en 2007, un rapport de l'autorité de sûreté nucléaire dénonce la présence de fûts corrodés et mal répertoriés qui se trouvent sur le site. On retrouvera aussi des traces de plutonium dans un chenal où il n'y aurait jamais dû y en avoir.
Et le pire, c'est que ça continue, car des incidents, il y en a encore eu, et très récemment. Hein.
Oui, il y a quelques mois seulement, en septembre 2015, alors que les ouvriers découpent du métal à quelques de l'ancien réacteur, certains laissent tomber des chiffons, des lingettes imbibées de solvants par terre. Du coup, le feu prend, alors sans conséquences graves certes, mais la façon dont ces ouvriers travaillent choque à nouveau Michel Marzin.
Ils faisaient sécher les lingettes par terre, et puis à côté, ils étaient en train de découper de l'inox, ils faisaient des étincelles avec une tronçonneuse, et la tronçonneuse a mis le feu dans les vapeurs d'évaporation, et puis l'incendie a pris, et ça aurait pu aller très loin s'ils n'avaient pas pu l'arrêter, mais on aurait pu très bien aller jusqu'à la cuve du réacteur qui était quelques dizaines de mètres à côté, et ça c'est grave.
Grave, hein, dit cet ancien employé de la centrale, ça fait quand même beaucoup. Comment on explique ces légèretés à EDF?
Alors on ne cherche pas à les nier. Pour ce qui concerne l'incendie dont on vient de parler, Sylvain Granger, le directeur général chargé des projets de déconstruction à EDF, admet que l'entreprise qui travaillait a été dépassée par les événements.
Bien, en fait, le solvant ne devait pas être volatile, il l'était un petit peu. L'environnement était confinant et donc a accumulé effectivement un certain nombre de vapeurs. Des protections avaient été prises entre l'opération de découpe et l'endroit où se situait le solvant, mais ces protections se sont révélées pas suffisantes. Mais d'un autre côté, l'expérience acquise sur les chantiers actuels, et y compris les essais-erreurs que nous avons eus, nous ont permis de progresser, nous ont permis de clarifier la manière de nous y prendre, non seulement pour une situation comparable, mais aussi pour d'autres situations, je dirais, similaires qu'on peut imaginer sur d'autres chantiers.
On vous rappelle que l'on est bien en train de parler de centrales nucléaires. Bon, on a avec Brennilis un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, ce qui frappe Jacques Monin, c'est que cette centrale a été fermée il y a 30 ans et qu'aujourd'hui encore, son démantèlement n'est toujours pas terminé.
Alors c'est long, c'est vrai, mais il faut aussi savoir, Mathieu, qu'à ce jour, une seule centrale nucléaire au monde a été entièrement démantelée. C'est dans le Maine, aux États-Unis.
Alors pourquoi ça prend autant de temps?
Alors parce qu'on l'a voulu, c'est un choix qui a été fait. Et ça, c'est Fabien Schiltz qui nous l'explique. Lui s'occupe des questions de déconstruction à l'ASN, l'autorité française de sûreté nucléaire.
Il y avait un choix qui a été fait par EDF quand la première filière de réacteurs nucléaires était arrêtée, de ne pas les démanteler tout de suite, mais de faire ce qu'on appelle du démantèlement différé. C'est-à-dire, ce que je peux faire tout de suite, je le fais tout de suite. Notamment, les déchets d'exploitation sont évacués, par exemple. Et ensuite, je ferme l'installation, je la surveille et j'y reviendrai plusieurs décennies après pour profiter notamment de la décroissance radioactive. Ce choix, l'ASN l'a remis en cause à la fin des années 90 et a demandé à l'ensemble des exploitants nucléaires de passer sur une stratégie qu'on appelle de démantèlement immédiat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on est sur certaines plus de 30 ans après leur arrêt, en fait, on commence seulement le démantèlement, mais parce que voilà, pendant plusieurs décennies, le démantèlement ne s'est pas opéré.
Si je comprends bien, pendant longtemps, on a mis en quelque sorte des centrales en hibernation. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On démarre le démantèlement, mais on tâtonne encore.
Oui, alors faut distinguer deux cas de figure. Vous avez les centrales de première génération, qui à chaque fois sont un casse-tête, et puis les centrales actuelles pour lesquelles les choses pourraient être un peu plus simples. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien parce que pour ce qui est des vieilles centrales, aucune n'est identique à l'autre, et il est impossible de tenir un devis. Un exemple, le super générateur de Crémalville, qui a été arrêté en 98. On a commencé à le démanteler. Ce n'est déjà pas simple de découper des locaux radioactifs. Mais là, c'est encore plus compliqué parce qu'on a eu une très mauvaise surprise, comme nous le raconte Sylvain Granger à EDF.
Nous sommes aperçus que, bien en fait, il y avait de l'amiante. Ça conduit à une complexification du chantier qui n'avait pas été identifié, puisque tant qu'on n'avait pas la possibilité d'aller faire des tests pour vérifier s'il avait de l'amiante ou il n'y avait pas de l'amiante, on ne le savait pas. Et ça vient du fait que sur des réacteurs anciens ou sur des réacteurs pour lesquels effectivement les opérations de démantèlement n'avaient pas nécessairement été pensées de manière anticipée, forcément, je veux dire, les opérations qui sont à conduire présentent un certain niveau d'incertitude, il faut l'admettre.
Et des exemples comme ça, on peut en citer d'autres.
Hein. Oui, à Grenoble, dans un des centres du commissariat à l'énergie atomique, il a fallu extraire de la terre contaminée qui n'aurait pas dû l'être, ce qui a provoqué un surcoût. Dans d'autres locaux nucléaires, on a découvert des compartiments radioactifs qu'on ne connaissait même pas parce qu'ils étaient cachés derrière des cloisons et on avait tout simplement perdu les plans de ces centrales.
Donc pour ces vieux réacteurs, on s'adapte au cas par cas. En revanche, pour les centrales plus récentes, celles qui sont actuellement en service, on peut espérer que ça va se passer autrement.
Oui, parce qu'il y a aujourd'hui 58 réacteurs qui fonctionnent. Or, ils sont quasiment tous identiques. Quand donc on va enfin s'attaquer à eux, on devrait pouvoir industrialiser le processus de déconstruction. Alain van der Kruisen dirige lui une unité spécialisée chez le géant du nucléaire Areva et il propose déjà des nouveaux outils pour le faire.
On a développé un outil qui s'appelle Manuela, c'est en fait l'utilisation de scanners 3D où on a ajouté une mesure radiologique. Et donc on arrive à avoir une représentation en trois dimensions d'un local avec l'ensemble des points qui présentent un niveau radiologique plus important. Ça permet de faire des mesures, de faire des essais et ça sans être dans l'installation.
Des outils donc très sophistiqués, mais il n'y a pas qu'une question de savoir-faire. Une fois qu'on a démoli les bâtiments, il faut encore stocker les déchets quelque part, et ça aussi, c'est un vrai casse-tête.
Oui, parce qu'il existe aujourd'hui deux sites de stockage spécialisés dans l'Aube, qui sont gérés par une agence qui s'appelle Landra, mais on estime que dans les années qui viennent, le volume des déchets issus du nucléaire va tripler. Ça veut dire qu'il va falloir accroître la capacité de ces sites et sans doute construire un troisième centre.
Et pourtant, ça ne devrait pas encore suffire, et c'est pour ça, Jacques, que Landra travaille sur une autre idée, recycler une partie des déchets nucléaires.
Oui, il faut savoir que c'est interdit aujourd'hui. Tout déchet provenant d'une centrale doit aller dans une décharge spécialisée. Patrice Torres, le directeur des centres de Landra, voudrait donc qu'on assouplisse cette réglementation.
En France, il n'existe pas ce que l'on appelle un seuil de libération. C'est-à-dire que même quand vous mesurez zéro niveau de radioactivité sur une poutre en métal, par exemple, vous n'êtes pas autorisé en France à la fondre et à en fabriquer autre chose. Parce que le législateur considère qu'il y a toujours une limite en deçà de laquelle un appareil ne mesure pas. Et donc il n'a pas voulu prendre le risque, comme d'autres pays le font, de recycler ces matériaux. Pour autant, de nombreuses personnes, les producteurs de déchets, l'AMRA, travaillent à des pistes qui permettraient de réutiliser une partie de ces déchets qui sont, on va dire, des déchets radioactifs plus administratifs que réellement radioactifs, à pouvoir les réutiliser dans la filière nucléaire pour construire, par exemple, des ouvrages de stockage.
Alors, jusqu'ici, on a parlé de déchets qui ne sont pas ou qui sont faiblement radioactifs, mais il va falloir aussi trouver des aires de stockage pour les combustibles qui resteront, eux, extrêmement nocifs pendant des centaines de milliers d'années.
Alors, pour l'instant, la plupart d'entre eux sont entreposés à l'usine de retraitement de La Hague. On les vitrifie pour éviter les risques d'incendie. Ceux-là, on ne les touche plus, mais il y a aussi là-bas quelques vieux déchets qu'on a laissés à l'abandon dans des conteneurs, et ceux-là, il faut maintenant les récupérer, explique Fabien Chy de l'autorité de sûreté nucléaire.
Ces conteneurs en fait étaient mis dans un bac en vrac, dans des fosses, dans des silos, en attendant que des solutions de conditionnement soient trouvées. Et puis on s'est dit, un jour, il faudra les reprendre, le conditionner correctement, mettre du béton ou du verre, le cas échéant, le fermer. Et là, c'est vraiment un des enjeux majeurs pour l'autorité de sûreté nucléaire. C'est la reprise de ces déchets anciens et leur conditionnement. Donc il faut les reprendre, les conditionner, et les entreposer en toute sûreté avant un jour de les envoyer en centre de stockage en couche géologique profonde.
En couche géologique profonde, si j'ai bien compris, l'idée c'est donc d'envoyer tous ces combustibles dangereux très profondément sous terre, c'est bien
oui,
ça
hein. Oui, c'est ça, l'agence qui gère les déchets des centrales souhaite construire d'ici 10 ans un centre de stockage qui serait à 450 mètres de profondeur, un centre qu'on appelle déjà CIGEO et qui se trouverait à Bure, près de Nancy. Alors pour l'instant, il y a un laboratoire souterrain dans lequel l'ANDRA fait des expérimentations.
Sauf que là encore, eh bien, rien n'est simple.
Oui, parce que ce type d'équipement implique d'infinies précautions. Les Allemands ont de gros soucis avec un site du même type parce qu'ils l'ont construit dans une ancienne mine de sel où le terrain bouge et où l'eau s'infiltre. Les Américains ont récemment fait face à un incendie dans un centre comparable qui n'était pas équipé de système de ventilation de secours. Et chez nous aussi, à Bure, c'était la semaine dernière, un homme est mort et un autre a été blessé dans un éboulement sur le site de l'ANDRA. Tout ça fait donc dire à Jacques Repussard, qui est le directeur général de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, qu'il vaut mieux qu'on fasse des essais avant de lancer un tel centre grandeur nature.
L'IRSN s'est prononcé en faveur de la construction d'un site pilote, avec une quantité limitée de déchets nucléaires dangereux, et que l'on vérifie pendant le temps qu'il faut, c'est-à-dire plusieurs décennies, que cette solution-là, elle est effectivement satisfaisante, aussi sur le plan de la sécurité industrielle, au jour le jour. Il y a des risques d'incendie, des risques d'effondrement, des risques de perturbation du sol, tout ça doit être vérifié in situ, en situation vraie, et pas dans un laboratoire comme on a aujourd'hui à côté de Bure.
Alors maintenant, au-delà du défi technologique, il y a forcément un aspect financier, parce qu'une installation aussi sensible, ça doit coûter une fortune, non ?
Oui, seulement le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment combien ça va coûter. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la SN, l'autorité de sûreté nucléaire, où travaille Fabien Schiltz, a demandé à l'ANDRA de revoir sa copie.
Le coût d'un déchet envoyé à CIGEO, aujourd'hui, est basé sur une estimation assez ancienne et assez obsolète. La SN a rendu son avis début 2015, on ne l'a pas rendu public, mais la SN en tout cas a appelé à ce que le coût de CIGEO soit rapidement mis à jour et puis ensuite régulièrement réévalué, parce qu'il a un impact majeur sur le coût de démantèlement et sur les charges que doivent mettre les exploitants de côté. La dernière estimation du coût de CIGEO a été faite par l'ANDRA il y a plus de 10 ans aujourd'hui, et c'était 15 milliards d'euros. Et donc forcément, si on met à jour... 1 milliard de différence, ça peut faire beaucoup de différence.
Oui, en l'occurrence, selon nos informations, ce n'est pas 15, mais 32 milliards d'euros que pourrait coûter finalement CIGEO.
Ce qui fait effectivement plus du double. Alors une interrogation, tous ces coûts, toutes ces charges à venir, EDF les prévoit dans ses comptes ?
Alors théoriquement, oui, depuis 2006, les opérateurs des centrales doivent provisionner les charges liées au démantèlement. EDF fait donc des estimations et chaque année, elle met de l'argent de côté. Seulement, le problème, c'est que la Cour des comptes estime que ces provisions sont sous-évaluées et Yves Marignac, un expert qui dirige en France l'ONG WISE, c'est une agence indépendante d'information proche des antinucléaires, Yves Marignac, lui, partage cette analyse.
Quand on fait une comparaison internationale avec d'autres estimations officielles des opérateurs et des gouvernements dans d'autres pays, on voit qu'elles sont partout plus élevées qu'en France, de 10% plus élevées jusqu'à 250% plus élevées. Donc on a un facteur 3 ou davantage sur les estimations. Donc il est très probable pour ne pas dire quasi certain, que les coûts qui sont provisionnés aujourd'hui par EDF s'avéreront insuffisants lorsqu'il faudra démanteler.
À en croire cet expert, les provisions seraient donc sous-estimées. Qu'est-ce qu'on répond chez EDF face à ces mises en cause ?
Ben, Sylvain Granger, le monsieur des constructions EDF, lui défend ses estimations. EDF, dit-il, a justement fait faire un audit pour en avoir le cœur net.
Cet audit a été réalisé par deux cabinets indépendants. Les conclusions sont aujourd'hui pas publiques, mais elles nous ont été rendues à l'été. Il y a ce que j'appellerais des plus et des moins. C'est-à-dire qu'effectivement, les auditeurs ont bien mis en évidence et ont confirmé ce qui avait été observé par la Cour des comptes. C'est-à-dire que pour eux, il y avait une légère sous-évaluation, par exemple, de l'assainissement des sols. Donc ça, effectivement, c'est un surcoût que nous prendrons en considération parce que nous avons les moyens de l'évaluer de manière plus précise. En revanche, à côté de ça, ils ont considéré que certaines opérations de démantèlement que nous avions chiffrées étaient surévaluées. Et au global, on a une confirmation du chiffrage qui est évalué aujourd'hui dans nos provisions.
Si je résume, on a donc deux avis contradictoires. De son côté, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme, mais l'entreprise, elle, affirme que ses calculs sont justes. Une question toute bête, Jacques Monin, qui a raison ?
Je vous dirais impossible de le savoir, on navigue en fait en plein brouillard, selon qu'on recyclera ou pas, on l'a vu, selon ce que coûtera Cigéo, tout ça peut faire une énorme différence.
Et ces incertitudes, il faut être honnête, la France n'est pas la seule à y être confrontée.
Non, c'est le cas aussi de l'Allemagne, et c'est un cas intéressant parce qu'on y a fermé 7 centrales après Fukushima et parce que 9 autres devraient suivre d'ici 2022. Alors là-bas aussi, les opérateurs provisionnent, et là-bas aussi, on s'interroge sur la fiabilité de ces prévisions. C'est ce que nous dit Dimitri Péchia, qui est un chercheur spécialiste dans le nucléaire, qu'a rencontré Cyril Sauvageau, notre correspondant permanent à Berlin.
Il y a quand même un certain nombre de doutes qui se posent sur ces montants et sur les coûts à venir, parce qu'on évolue dans un milieu très incertain. On n'a pas en Allemagne et nulle part au monde vraiment une expérience très fine des démantèlements. Ça, d'une part, sur le démantèlement, on a aussi des incertitudes très importantes sur le coût du stockage définitif, parce que en Allemagne, on n'a pas de filière de stockage aujourd'hui qui a été arrêtée. Si les montants provisionnés ne sont pas suffisants pour couvrir les coûts in fine, il y aurait bien un moment ou un autre de l'argent public qui devrait être mis en œuvre et donc in fine une répercussion sur le contribuable.
Et ce qui va arriver au contribuable allemand, Jacques Monin, risque bien d'arriver au contribuable français.
Alors en fait, chez nous, c'est un package qu'il va falloir payer. Vous prenez un checker, vous y mettez la rénovation du parc des centrales actuelles, soit 55 milliards d'euros. La prise de participation d'EDF dans Areva, près de 3 milliards, 2 milliards et demi d'euros. La construction des deux EPR britanniques, près de 18 milliards. Et le démantèlement, officiellement une trentaine de milliards, mais on l'a compris sans doute beaucoup plus. Vous agitez le tout et effectivement, votre facture explose. Et c'est pas moi qui le dis, ça. Récemment, sur iTélé, Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, reconnaissait, même s'il le fait, c'est vrai, en des termes feutrés, que notre facture allait grimper.
Le parc nucléaire français est encore jeune. Mais avec le temps qui passe, il va falloir un petit peu plus d'argent. Ça veut dire qu'il y aura régulièrement des augmentations acceptables.
Acceptables ces augmentations parce que, pour l'instant, il faut le dire, l'État fait pression sur EDF pour ne pas augmenter les prix trop brutalement.
Bah oui, parce que politiquement, c'est risqué, on le comprend, c'est le genre de mesure qui est forcément impopulaire, mais ces augmentations, au final, elles devront être massives. Et elles ont d'ailleurs été chiffrées, si l'on en croit Yves Marignac, le directeur de Wise.
On a besoin d'une augmentation du tarif de l'électricité d'environ 30 à 50% dans les années qui viennent, alors ça peut se lisser dans le temps, etc. Mais on y arrivera nécessairement. Et un tarif de l'électricité sensiblement moins cher en France que dans le reste de l'Europe ne peut pas durer, sauf à laisser totalement dépérir le système électrique français avec des conséquences bien plus graves qu'une simple augmentation du tarif de l'électricité.
Conséquences bien plus graves, qu'est-ce qu'il veut dire cet expert ?
Ça va peut-être vous surprendre, mais on parle là d'une possible faillite d'EDF, et pour une raison simple. 80% des 58 réacteurs français ont été mis en service sur une période de 10 ans. Alors pour l'instant, EDF parie sur le report de leur fermeture, mais à terme, on risque d'avoir à mener en cascade de très nombreux démantèlements avec ce qu'on peut appeler un effet de falaise. Et si on a sous-estimé ce qu'il fallait provisionner, eh bien EDF risque de se trouver devant un mur financier. Et c'est ce qui fait dire à Yves Marignac que l'entreprise joue sa survie dans cette affaire.
Si on continue, comme EDF officiellement cherche à le faire, à repousser la durée de vie de tout le parc, repousser le mur du démantèlement sans l'étaler, arrivera un jour où EDF ne pourra plus faire face et où on sera dans un scénario qu'on a connu en Grande-Bretagne et qui se dessine aujourd'hui en Allemagne, où le passif devra être repris directement par l'État, pendant que les actifs pour générer du cash devront être davantage privatisés. Le mur financier du démantèlement et le mur industriel du démantèlement met en péril la survie de l'entreprise.
En conclusion, Jacques Monin, c'est quand même un véritable scénario catastrophe que vous nous avez décrit.
Oui, alors attention, c'est une hypothèse, rien n'est certain pour l'instant. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que la forte augmentation du prix de l'électricité, on n'y coupera pas. Il va donc falloir réduire notre consommation en utilisant des équipements moins énergivores et en isolant mieux nos logements. Ce sera la seule façon, en fait, d'adoucir cette potion amère qu'on va finir par nous faire avaler.
Merci beaucoup Jacques Monin pour cette enquête passionnante sur le coût secret du démantèlement des centrales nucléaires. Une enquête qui est à retrouver en texte et en vidéo sur notre site franceinter.fr et sur la page Facebook de Secret d'Info. Allez, on change complètement d'univers. Puisqu'on va maintenant s'intéresser à un paria de la politique, Jérôme Cahuzac, jugé à partir de lundi, on reçoit notre confrère Mathieu Delahousse qui, dans un livre, révèle les dessous de cette affaire.